à voix nue. À l'occasion de l'exposition Jardin au Grand Palais, nous écoutons toute cette semaine la rencontre entre Ruth Stégassy et Gilles Clément, diffusée en 2009. Ce soir, s'insérer dans le flux du vivant.
On présente Gilles Clément comme paysagiste, lui préfère se dire jardinier, attaché à observer le vagabondage des plantes et leur brassage planétaire. Il a créé de nombreux jardins comme le parc André Citroën à Paris, le domaine du Rayol à Hyères ou le jardin d'Ortie à Mel. Il est aussi écrivain, auteur d'essais, Le jardin en mouvement, traité succinct de l'art involontaire, Nuages, de romans, Thomas et le voyageur, La dernière pierre, de livres d'artistes, Le jardin planétaire, La sagesse du jardinier, et d'un récit autobiographique, Le salon des berces. Plusieurs ouvrages lui ont été consacrés, dont le très beau Gilles Clément, Une écologie humaniste, de Louisa Jones. Le fil conducteur, ce sont les plantes, bien sûr, mais surtout, une façon de toujours s'insérer dans le flux du vivant, pour reprendre vos termes. Vous êtes né dans un jardin, Gilles Clément ?
Je suis né dans une baignoire. Je suis né dans une baignoire parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de médecin facilement trouvable dans la ville d'Argenton-sur-Creuse. Et puis, c'était la fin de la guerre ou la guerre encore, enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'était compliqué. Alors, ma mère, ne sachant pas quoi faire à ce moment-là, s'est mise dans la baignoire. Et du coup, elle a accouché comme ça. Puis, il y a une femme qui est venue l'aider. Puis, plus tard, un médecin qui a quand même été alerté. Puis, finalement, bon, les choses se sont passées bien. Mais je ne suis pas né dans un jardin.
Oui. Argenton-sur-Creuse, il n'était pas loin. Le jardin.
Alors, à Argenton-sur-Creuse, il n'y avait pas de jardin. C'est un tout petit peu plus tard que mon père a acheté une sorte de grange. C'était pas une sorte, c'était une grange qui restait après l'inondation de tout un paysage par la montée d'un barrage qui a été construit en 27, qui était destiné à fabriquer de l'énergie électrique pour le métro à ce moment-là. On a beau être à 350 km de Paris. L'entreprise, d'ailleurs, c'était la même, celle qui avait fait l'extension des métros à l'époque et le barrage. Et c'était donc un ouvrage important qui reste encore aujourd'hui important, même s'il ne fournit plus autant d'énergie. Mais ça a noyé tout un paysage. Et des bâtiments, assez peu. Mais au bord, les maisons ayant disparu là, il restait... Elle avait été démontée, puisqu'on savait que les propriétaires savaient que le niveau d'eau arriverait au-dessus de cette maison, mais la grange, qui était un peu encore plus haut, est restée. Et ces bâtiments n'avaient plus de fonction à ce moment-là. Donc les propriétaires n'ont pas voulu louer ça à mon père, qui en avait besoin pour stocker du matériel. Et du coup, ils l'ont vendu, ce qui a été une très belle aventure, parce que... inespéré, parce qu'aujourd'hui, cette maison est tellement bien située. Enfin, elle n'est plus à moi, malheureusement, mais elle est dans une position remarquable. Et là, il y a eu un jardin. Il y a eu un petit jardin, tout petit, parce que le terrain était petit. Mais il était petit, mais en même temps, tout le paysage était à nous. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Ça veut dire, ça n'a pas changé dans le sens où il n'y a pas de cloisonnement, où la vue s'en va assez loin dans cette vallée. Et où on n'a pas du tout l'impression qu'il y a des limites, ce qui est comme si on était dans un paysage sauvage à nous, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. C'est à plein de gens différents, sauf que personne n'y va, parce que c'est justement accidenté, et du coup, c'est devenu une forêt en quelques années, en 40, 50 ans.
Mais enfant, vous saviez faire la distinction entre ce qui était jardin et ce qui était paysage, c'est-à-dire vous connaissiez les limites de votre jardin ?
Elles étaient très très claires, les limites du jardin, parce qu'elles étaient définies par la propriété, qui était toute petite à l'époque, quelques arbres vraiment minuscules, bon, il y avait même une haie qu'on avait, alors là c'était révolutionnaire, inventée comme multiple, avec pas du tout une seule espèce, plein de choses... même pas de persistant. Bon, mais il faut dire qu'il n'y avait pas lieu, parce qu'on avait à se protéger de rien. C'était juste une limite de propriété, c'était pas un écran visuel ou quoi que ce soit d'autre. Il y avait un petit chemin creux derrière et c'est tout. Et immédiatement derrière, donc, se trouvait autre chose de très 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 différent, vraiment très différent, parce que à cette époque-là, c'était on faisait des jardins, comme d'ailleurs on en fait encore aujourd'hui, de façon assez, je sais pas comment dire, inspirée d'une nécessité de propreté, une forme ennuyeuse en fait de vision de l'espace, puisque pratiquement l'œil va jusqu'aux limites et que tout est regardé et vu d'un seul coup et qu'on n'a même pas de surprise. Alors, les surprises, elles pouvaient être installées sous forme de petits fleurissements qui étaient très, très, très ridicules, hein. Mais, et puis, c'était fait, moi, je m'y suis intéressé à un moment donné, donc j'ai fait mes armes là-dedans.
Mais oui, justement, parce que là, je suis en train de vous interroger comme si vous étiez déjà un jardinier. Mais peut-être pas.
Mais non, bien sûr, je ne l'étais pas, mais j'étais surtout surpris par ce qui se passait dans le jardin en tant que vie, mais aussi, et plus encore, à l'extérieur du jardin, toujours en tant que vie. Ça veut dire là où on trouvait les arvers, les écureuils, enfin bon, les animaux, beaucoup plus d'insectes, etc. Mais dans le jardin, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, c'est-à-dire à y travailler avec mes mains, à partir de l'âge de 13-14 ans, quand j'ai pas vraiment sollicité l'autorisation de le faire, mais je crois que mon père, qui s'en occupait à ce moment-là, était bien d'accord pour me passer la main, pour celle de soulager aussi bien. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai fait beaucoup d'horreur à ce moment-là. Là, vraiment, là, j'ai expérimenté toutes sortes de choses.
Avouez.
Oui, j'avoue, oui. Eh bien, par exemple, mon premier massif, ça s'appelait comme ça, on faisait des massifs, était fleuri. Je l'avais dessiné comme une espèce de demi-étoile, comme ça, avec des grandes branches pointues, et dans lequel je mettais ce que je pouvais trouver comme fleurs. Alors ça, c'était vraiment monstrueux. Et puis, les petits conifères nains. Parce que à cette époque-là, on vendait sur le marché des conifères appelés nains, qui sont des monstres aujourd'hui, qui font 20 mètres de haut.
Mais là, à cet âge-là, vous aviez simplement envie de faire du beau, en quelque sorte.
Ah oui, là j'étais, oui.
Comment est-ce que vous imaginiez votre avenir? Vous vous prédisiez déjà jardinier? Non, pas du tout.
Pas du tout. L'avenir me paraissait extrêmement inquiétant, parce que je voyais les adultes, et je les trouvais pas très heureux. Je trouvais qu'ils travaillaient d'une façon excessive. Je comprenais pas pourquoi. Ça me paraissait... Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire comme ils faisaient. Vraiment, vraiment. Ça me paraissait pas bien pour l'homme, ça. Je trouvais ça... Parce que c'était généralisé, quand même. C'était une période assez active. Qu'on a abusivement appelé les 30 glorieuses. Depuis longtemps, déjà, j'appelle les 30 désastreuses. Mais parce que bon, ça a été toute une déforme, un massacre du paysage au nom d'une je ne sais pas, d'une économie dont on connaît les résultats aujourd'hui. Et à ce moment-là, moi, ce que je voyais, c'était des gens stressés et déjà assez malheureux. Alors j'étais fort inquiet. Et quand il a été question bien plus tard de trouver un métier, puisque j'avais un diplôme pour ça. J'ai longtemps résisté à la possibilité d'en trouver un vraiment.
Quel diplôme?
Ben, j'étais diplômé de l'école du paysage de Versailles, et avec un double diplôme, un diplôme d'ingénieur, puis un diplôme de paysagiste un peu plus tard. Et il a fallu que je commence à travailler, soi-disant c'était ça, puisqu'on était lancé dans la vie active, et je redoutais absolument ça. Alors j'ai refusé d'ailleurs à ce moment-là des emplois.
Mais tout de même, Gilles Clément, vous dites non, c'était pas le jardin. Je voyais l'avenir avec inquiétude, mais d'emblée, vous êtes allé vers le paysage, c'est-à-dire que c'était quand même...
Non, pas d'emblée. J'ai continué mes études jusqu'à l'époque, jusqu'à la seconde. Enfin, beaucoup plus tard, je veux dire. Mais c'est en seconde que là, une femme, professeur de sciences naturelles, ça s'appelait comme ça, ce qui est devenu des SVT aujourd'hui, enfin bon, et m'a dit qu'il existait, je ne sais plus comment cette discussion est venue entre nous, mais il existait une école qui formait des ingénieurs horticoles et des paysagistes. Alors, il fallait, soi-disant à l'époque, passer par la filière ingénieur. Ce qui n'est plus du tout obligé, d'ailleurs, ça ne l'était même pas déjà, mais elle ne le savait pas. Du coup, moi, j'ai fait ça. J'ai fait les concours agri, agro et horti, ça s'appelait comme ça, qui sont tous c'est un concours commun pour toutes ces écoles. Et j'ai choisi l'école de Versailles, car en fait, j'étais admissible partout. Et nous avons été seulement deux à faire ce choix bizarre, qui était de partir à Versailles, à l'école d'horticulture, et non pas à Gros-Paris ou Grignan. Et les professeurs de Versailles, quand ils nous ont accueillis, toute la promotion, étaient surpris par... C'était Pierre Donadieu et moi, Pierre qui est à l'école d'ailleurs aussi, en tant qu'enseignant, encore aujourd'hui. Ils demandaient, mais pourquoi vous avez choisi cette école qui était considérée comme, comme un petit peu mineure par rapport aux deux autres? Ben, j'ai dit, mais parce que moi je veux être paysagiste, c'est tout, et que c'est par là qu'il faut passer. Alors là, oui, c'est vrai, c'était vrai, mais quand on était admis dans les autres, on allait systématiquement, parce que c'était beaucoup plus prestigieux de faire l'agro. Cela dit, je regrette absolument pas d'être passé par la filière à l'époque de l'école d'horticulture, parce que c'est là que j'ai appris énormément de choses, en particulier sur le vivant, qu'on n'apprenait déjà plus à l'agro, malheureusement.
Qui vous enseignait ces choses, puisque vous nous avez présenté les adultes comme inquiétants, oui, stressés, malheureux. Mais il y a eu cette femme, prof de sciences naturelles, qui visiblement a su vous parler. Il y en a eu d'autres, en particulier à Versailles.
Mais il y en a eu tout le temps. C'est assez bizarre dans ma vie. Les femmes ont joué un rôle incroyable dans mon orientation et dans tout mon travail, mais tout le temps, hein, tout le temps. C'est-à-dire que c'est elles qui ont détecté et orienté, insisté auprès de mes commanditaires ou se sont constituées parfois commanditaires elles-mêmes. J'ai eu très très peu de commandes directes ou de soutien direct de la part des hommes. C'était à 99%, je peux dire, ce sont des femmes. C'est un mystère, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'elles sont plus attentives à ce qui se passe et qui n'est pas complètement dit, parce que leur sensibilité leur permet de percevoir des choses qui ne sont pas forcément dites à haute voix, et du coup percevaient là quelque chose. Bref, elles m'ont aidé constamment.
J'essaie de retrouver son nom, mais vous avez eu un professeur, visiblement, qui était important pour vous.
Ah oui, très, très important, c'est Jacques Montaigu, oui. Et très, mais d'autres. Mais lui, il avait une capacité à nous dévoiler l'univers à partir de si peu de choses que tout était rendu intelligent et intelligible, d'abord. Et finalement, il disait des choses sur l'écologie sans nommer même... C'est sans parler même de l'écologie. Quand on faisait des visites de terrain, enfin, il en parlait aussi, mais d'une façon scientifique. Simplement, il nous montrait les choses, et à propos d'une minuscule plante, on pouvait apprendre qu'elle résistait ou pas au piétinement, qu'elle était liée ou pas à un animal qui venait la brouter, que ces graines se disséminaient de telle ou telle façon, véhiculées par des fourmis ou pas, que les oiseaux jouaient un rôle dans la levée de dormance de certaines graines et allaient les déposer ailleurs. Enfin bref, il s'ouvrait tout un univers qui était très très au-delà de la plante dont il parlait. Et ça, c'était merveilleux. Et pour rien au monde, on aurait manqué une visite de terrain avec Jacques Montaigu. C'était pourtant un enseignement difficile, puisqu'il nous enseignait une chose qu'on n'enseigne pratiquement plus du tout aujourd'hui, qui est la systématique. La systématique, c'est la classification des végétaux. C'est ingrat. C'est apprendre à reconnaître les familles, c'est faire les diagrammes végétaux, c'est faire des herbiers avec une méthode très précise. Puis bon, là, on a appris beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, si la systématique était enseignée de cette façon-là, ça éclairerait énormément les esprits. On n'aurait pas les hésitations qu'on a. Je le vois bien avec mes étudiants, hein, qui sont malheureusement très peu informés sur cette affaire du vivant, et en particulier des végétaux. Il n'y a même plus de profs de botanique, d'ailleurs. On n'a pas reconduit les postes de certains enseignants partis à la retraite. C'est un manquement énorme, et c'est très grave, je pense, parce que pendant ce temps-là, d'autres font ce travail ailleurs, mais à des fins terribles qui consistent à breveter le vivant. On a intérêt à le connaître, évidemment. Pas forcément pour le breveter, mais au minimum à le connaître, ne serait-ce que pour anticiper sur ces affaires qui sont dramatiques.
À vous écouter, Gilles Clément, on a d'emblée... une image composite à la fois d'une époque et de paysages totalement corsetés, totalement engoncé. Vous avez parlé de ces massifs bien propres et puis de ces vies bien rangées, assez grises, somme toute. Même de cette discipline difficile et rigoureuse, la systématique des plantes. Et puis, tout à coup, au milieu de ces images que vous donnez, qui sont des images associées aux espaces verts, aux plantations alignées de prunus, par exemple. Mmh. Et puis, quand vous décrivez vos sorties avec Jacques Montaigu, tout à coup, on s'aperçoit que dans ces paysages-là, qui étaient en train d'être détruits, vous le dites, il reste une vie foisonnante, à condition de savoir la regarder, justement, de non plus piétiner la toute petite plante, mais de simplement la regarder.
Oui, oui, là, c'est cette question-là qui reste très d'actualité. Hein. C'est comment regarde-t-on ? Aujourd'hui encore, à force de ne pas comprendre ce qu'on a sous le regard, évidemment, on rentre dans des processus de destruction systématique, tout simplement parce que on ne sait pas que ça a de l'importance. Alors on peut faire passer un bulldozer, on peut même piétiner sans scrupule, enfin, mais quelquefois on détruit à dessein parce qu'on a peur aussi. C'est en particulier le cas des insectes, de pas mal d'animaux ou de plantes qui sont mal perçus et qui apporteraient tellement si on savait quels sont leurs rôles dans l'écosystème et leur rôle parfois positif direct pour nous, vraiment.
J'aimerais, parce que là vous nous ramenez au présent et j'aimerais qu'on reste dans vos années de formation, oui, et dans la façon dont tout ça s'est passé, finalement. Mmh. C'est-à-dire, quel regard est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez porter sur ces 30 désastreuses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, quel regard est-ce que vous, adolescent, jeune homme, portiez sur ces fameux paysages que vous aviez envie de dessiner, tout de même ? Alors, est-ce qu'ils étaient dans le goût de l'époque ? Est-ce que déjà vous étiez heurté par des choses que vous découvriez ?
Ah oui, j'étais très heurté par la façon dont on installait les bâtiments, par exemple. Dont on les montrait sans aucun rapport avec le paysage, dont on les posait quoi dans l'espace, et la rapidité avec laquelle c'était fait, la brutalité en fait. J'étais vraiment très choqué par ça. Et après, on cautérisait, on soignait en mettant soi-disant des espaces verts et des espaces vides, neutres, mais aussi difficiles. D'appropriation presque impossible la plupart du temps est devenue rapidement des espaces vandalisés.
Mais est-ce qu'on voyait des issues à l'époque ? Je sais que mai 68 est arrivé par là-dessus et en fait, de ce que je sais de vous, mai 68, c'est la première manifestation de Gilles Clément, tel qu'en lui-même. C'est-à-dire, ce que vous racontez volontiers, vous allez le faire, j'espère, c'est que vous étiez donc jeune étudiant, que vous avez été dans les comités de discussion, de débat, et puis une phrase, un jour, sur un tableau, vous a fait partir.
Oui, c'était un drôle de moment, parce que d'abord j'étais à Versailles, dans cette école un peu isolée, comme on peut l'être si près de Paris, mais dans un lieu si spécial. Et des choses qui se passaient à Paris même nous échappaient. Et que nous n'avions pas pris, en tout cas moi, la mesure de cette manifestation qui devenait généralisée et avec une dimension politique qui nous échappait. Ça restait pour moi une révolution interne à l'université et la nécessité de reformer les programmes. Et ça, je le ressentais depuis si longtemps que je trouvais que c'était parfaitement justifié. Et du coup, j'avais été nommé président de commission de réforme. Et dans quoi je refaisais un programme qui m'a servi plus tard en tant qu'enseignant, d'ailleurs.
Oui,
quelques éléments de ça.
Vous avez des souvenirs de votre programme réformateur ?
Oui, en particulier sur une méthodologie d'utilisation de ce que nous apprenions dans les sciences un peu plus dures vers le projet, et qui le pont ne se faisait pas. On avait des enseignements séparés, ça veut dire on nous apprenait je ne sais pas, la génétique ou bien l'écologie végétale, et puis séparément le projet, le dessin, la conception. Mais enfin, mais comment fait-on le lien si on laisse les choses séparées sans jamais parler de la liaison? Donc il manquait l'application de l'un vers l'autre, mais c'était une application qui manquait cruellement et qui encore aujourd'hui manque dans certains cas.
Mais c'est d'autant plus étonnant cette faille que nécessairement dans l'esprit de ceux qui avaient conçu les programmes, il y avait nécessité de vous enseigner la génétique pour
oui,
le projet.
Bien sûr.
Donc ce
mais
qui est extraordinaire, c'est qu'on a envisagé qu'il fallait que vous appreniez tout ça, mais oui. On ne vous a jamais permis de faire les liens.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus de synthétiseur dans l'histoire. Il n'y avait personne pour faire le lien, vraiment. Comme on n'avait pas d'enseignant pour ça, on ne le faisait pas facilement, spontanément. Si par hasard on le faisait, c'était mon cas parce que j'ai toujours eu tendance à ça, eh bien, je gênais mon enseignant qui, lui, n'avait pas les éléments pour sanctionner des parties qui n'étaient pas dans sa spécialité. Et du coup, là, un projet qui est toujours une chose très complexe dans le monde du paysage et des jardins, devenait, s'asséchait et devenait quelque chose de squelettique finalement et réduit à l'une des parties de ce métier seulement. Et ça dépendait de qui nous corrigeait. Donc je trouvais ça très, très pauvre et puis très mal fichu, quoi. Donc ça m'a servi à ce moment-là beaucoup. Et puis on travaillait alors, curieusement, bien que nous étions en grève, mais enfin on travaillait pour établir des nouveaux programmes, pour réfléchir, on avait viré des enseignants, les pauvres, certains ne comprenaient rien à ce qui se passait, d'autres étaient un peu malmenés dans cette histoire.
Et Montaigu puis, était là.
Et oui, Montaigu était, faisait partie des gens que nous gardions, lui. Mais il a souffert quand même pendant cette période. Bien sûr, enfin, il était là, bien sûr. Et à un moment donné, un jour, arrive sur le tableau cette phrase énigmatique qui restait pour moi énigmatique, l'arbre est capitaliste. Là, j'ai compris que bien sûr, il était question d'une politisation globale des débats. Et je ne voyais pas ce que signifiait cette phrase, bien sûr, parce que ça pouvait dire beaucoup de choses, ça pouvait dire l'arbre, le sujet lui-même, autonome, se développe de façon comme ça, isolée finalement, en capitalisant cette énergie qui lui permet de... Je ne sais pas, un discours de ce genre. Bon.
Génétique.
Oui, mais enfin, restant obscur, quoi qu'il arrive. Alors, ça pouvait être l'arbre est le symbole d'une société qui fonctionne sur cette économie capitaliste. On employait beaucoup le mot à l'époque. C'est devenu l'ultralibéralisme aujourd'hui. Autre chose. Et alors, c'est donc l'emblème des riches qui plantent des arbres. Je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire ça. Bref, ça me paraissait incompréhensible. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les débats sont devenus chaotiques. C'est-à-dire qu'on a cessé d'avoir une méthode, c'est parti dans tous les azimuts, et je sentais que je perdais mon temps. Je suis parti herboriser. J'ai décidé qu'il faisait beau, que ça me donnait cette grève qui n'en finissait pas, des jours de vacances en plus. C'est pas des vacances, c'était pour moi une opportunité d'observation. Et c'est cette année-là que... avec ma deux chevaux, partant sur des routes toutes petites. Il en existait encore, je pense à la Nationale 20, qui était encore une petite route. Enfin, c'était une nationale, mais on pouvait s'arrêter au bord de la Nationale 20 sur un bas-côté et découvrir des orchidées en quantité. Et je me souviens de l'homme pendu, qui est une orchidée assez rare, de l'ophrys-mouche, enfin de tout un tas de plantes comme ça, de l'orchis barbe de bouc, ou bref, de l'orogloss, enfin des choses comme ça.
Qu'est-ce qu'elles incarnaient pour vous, ces orchidées que vous découvriez? C'était des fleurs qui tout à coup sortaient des livres, ou bien c'était le plaisir?
Non, pas complètement, parce que j'avais déjà eu les formations et les... De Montaigu, on était déjà allé faire des... Mais j'avais remarqué déjà depuis longtemps que cette époque qui est située entre le mois d'avril et le mois de juin, qui est une époque où on travaille beaucoup dans les écoles, et Bon, c'était, on ne devrait pas faire travailler les gens à cette époque-là. Parce que tout se passe à ce moment-là. Et en effet, le mai 68, c'était mai et juin, c'était deux moments forts où tous les insectes éclosent, ou bien tous les plantes de printemps sont là, les plantes qui n'ont qu'une apparition éphémère. Ces bulbes d'orchidées sont des faux bulbes d'ailleurs, mais qui ont, ça a une vie très courte tout ça. Mais si on ne les voit pas, si on ne peut pas les observer à ce moment-là.
Et cette première expérience d'un regard libéré des emplois du temps, libéré des examens et des cours, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Ça m'a apporté la conscience d'une diversité qu'on nous cachait, mais pas consciemment, qu'on mettait de côté, parce que finalement, déjà à ce moment-là, on n'en parlait pas, à ce moment-là, le mot diversité n'existait pas, mais c'était bien ça que je voyais avec étonnement quand même. Par exemple, quand j'avais observé un papillon qui était une pieride avec son dessin et son revers nacré, je me disais, tiens, elle n'est pas exactement comme l'autre, parce que le revers est nacré sur celui-là. Et puis, j'ai fini par acheter un livre. Et achetant un livre, je découvre mais un nombre d'espèces mais incroyable. Mais je n'ai jamais vu, mais pourquoi on ne les voit pas ? Et on ne les voyait pas parce qu'on n'était jamais dehors à ce moment-là, tout simplement. Alors donc, il y avait des spécialistes qui étaient, eux, qui savaient ces choses-là. Et pourquoi le savoir était-il uniquement entre les mains de spécialistes ? C'est un savoir que tout le monde peut partager, puisque c'est notre environnement, soi-disant. Mais enfin, on ne le connaît pas du tout. Mais du tout. Et c'est pareil aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si on met quelqu'un dans le même paysage que, voilà, dans la nature, qu'on lui demande de nommer, il serait bien embêté, parce qu'on ne nous a pas appris, finalement, ça. Donc là, je trouvais, malgré mes études, et si bien faites par ces enseignants-là, je trouvais qu'on était encore en sous-connaissance. Quoi. Et je m'en suis émerveillé, vraiment, beaucoup. Ça m'a beaucoup plu, hein, ça, cette période-là.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Ruth Segassi avec Gilles Clément, diffusée en 2009. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Claire Levasseur, réalisation Olivier Bétard, Julie Béressy, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.